Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la course au vaccin contre la Covid-19. À l'ordre du jour ce soir, le vaccin contre la Covid pourra-t-il rester un bien public? Le répit que bien des pays ont ressenti cet été face à la pandémie a été comblé médiatiquement par les annonces chinoises, états-uniennes et russes d'avancer chacun et chacune dans la voie d'un vaccin. Des espoirs soutenus par l'effort financier unique concédé par les grands États qui ont précommandé des doses par million pour soutenir l'effort des laboratoires. Mais qu'en est-il des belles idées développées avant l'été de rendre ce nouveau vaccin accessible aux citoyens du monde entier et d'en faire un bien public? L'idée a été reprise très récemment par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Mais que recouvre-t-elle exactement? C'est ce que nous allons demander à nos trois invités. Marie-Paul Kieny. Bonsoir Marie-Paul Kieny.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne directrice générale à l'OMS, directrice de recherche à l'INSERM et présidente du comité vaccin Covid-19 chargée de conseiller le gouvernement français. Avec vous également, Gérard de Pouvourville. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur honoraire en économie de la santé à l'ESSEC Business School. Et avec nous en studio, Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de l'ONG One en France, une ONG effectivement qui se bat pour ces questions de droit, en particulier de ce qu'on appelait dans le temps le tiers-monde, de l'égalité justement de traitement, en particulier pour la santé et pour ces questions de vaccins. On va en discuter dans un instant.
中国新冠疫苗研发完成并投入使用后
Le vaccin chinois contre le coronavirus, lorsqu'il sera mis au point et disponible, deviendra un bien public mondial. Ce sera la contribution de la Chine pour assurer l'accessibilité et le caractère abordable du vaccin dans les pays en développement. Vous avez reconnu Xi Jinping, c'était le 18 mai 2020, donc il y a déjà un peu de temps. C'était un message vidéo transmis à Genève lors de la 73e Assemblée mondiale de la santé. Sur ce point, Marie-Paul Kieny, voici donc le leader chinois qui disait qu'il fallait faire de ce vaccin chinois contre le coronavirus un bien public mondial. Que faut-il penser de ce terme de bien public et de bien public mondial pour un vaccin ?
Alors évidemment, on sait tous qu'un bien public mondial est une définition bien précise. C'est quelqu'un dont on ne peut pas priver quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui se renouvelle, etc. Et là, c'est effectivement, ça ne peut pas être le cas pour un vaccin. Mais ce qu'on entend, c'est que tous les citoyens du monde, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, devraient pouvoir avoir accès à ce vaccin, ces vaccins Covid, de façon à se protéger et à protéger leur société à peu près au même moment.
Ça veut donc dire, Gérard de Pouvourville, que quand on titre le vaccin contre la Covid pourra-t-il rester un bien public, c'est déjà une erreur d'appréciation des journalistes que nous sommes ?
C'est-à-dire que la notion de bien public est effectivement en économie renvoie à quelque chose de très précis, qui est que la consommation d'un bien par une personne n'affecte pas la consommation des autres. Si vous appliquez cette définition au vaccin, quel qu'il soit, ça veut dire qu'il faudrait que l'ensemble des acteurs qui produisent des vaccins produisent une quantité illimitée qui permette de satisfaire et de répondre aux besoins de l'ensemble de la population mondiale. Donc à condition qu'on arrive à cet objectif de produire assez de vaccins efficaces, bien sûr, pour l'ensemble de l'humanité, sous cette condition, ça peut être un bien public. Après, ça ne veut pas dire qu'il sera gratuit. Hein. Ça veut dire simplement qu'il n'y aura pas de pénurie ou il n'y aura pas de restrictions pour certains pays ou pour certaines populations.
Et puis il n'y aura pas non plus de droit de propriété intellectuelle, qui est quelque chose de très important, Gérard de Pouvourville, quand on traite de ces questions-là.
Ça, c'est autre chose. Il n'est pas du tout sûr que les labos abandonnent leurs droits de protection intellectuelle ou leurs brevets sur les vaccins qu'ils produisent. Ce sur quoi ils se mettront probablement d'accord avec les payeurs, c'est effectivement sur la vente finalement à des prix qui seraient modulés en fonction de la capacité des pays à payer, mais pas nécessairement à céder leur licence. D'ailleurs, céder leur licence dans ce cas d'espèce, c'est un peu voyez, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait, céder leur licence, ça veut dire donner à d'autres entreprises ou d'autres industriels la possibilité de produire le vaccin. Ça, c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, ça nécessite un savoir-faire et des compétences particulières, et c'est pas tout à fait sûr que même si, enfin, cette licence, enfin, s'il y avait un abandon de licence, il y aurait le potentiel, effectivement, au niveau mondial, de production des vaccins pour l'ensemble des pays du monde.
Najat Vallaoubelkacem.
C'est pas forcément abandon de licence, pas forcément abandon de licence.
Najat Vallaoubelkacem, vous dirigez pour la France, directrice générale de l'ONG One, une ONG internationale qui se préoccupe justement des questions d'accès aux soins, d'accès et de lutte contre la pauvreté au niveau mondial. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, simplement? Est-ce que un vaccin comme celui contre la Covid pourrait être un bien public ou un bien public mondial, et dans quelles conditions ça pourrait le devenir?
Vous savez, l'ONG que je dirige en France, One, est une ONG qui connaît bien ces questions de santé et bien la difficulté, y compris quand les traitements ou les vaccins existent, de faire en sorte qu'ils soient accessibles dans les pays les plus pauvres du monde. C'est de cela que nous nous soucions. On sait qu'en moyenne, des traitements mettent quelque 7 ans, à arriver dans les pays les plus pauvres, vers les populations les plus éloignées de tout, une fois qu'ils ont été découverts dans les pays les plus riches. Or, ces 7 ans, en fait, s'expliquent notamment par des contrats d'exclusivité qui ont été signés par les pays riches avec les fournisseurs de vaccins ou de traitements. Et c'est cela qu'on veut absolument éviter s'agissant de la Covid-19, puisqu'on sait bien que tant que cette pandémie continuera à affecter une partie du monde, d'abord, c'est un problème en soi pour l'humanité, évidemment, mais en plus, ça risque de nous revenir en boomerang, compte tenu de la contagiosité. Donc, évidemment qu'il faut faire du vaccin à venir un bien public mondial. Ce qu'on entend par là, c'est tout simplement que son accès soit équitable et qu'il ne dépende ni de la nationalité ni de la richesse. Donc en effet, qu'il soit distribué à des coûts permettant le plus large accès. Pour ce faire, il faut évidemment que tous les pays aujourd'hui et les institutions internationales mettent les moyens. Donc il y a des dispositifs qui ont été conçus et notamment quelque chose, pardon d'entrer dans la technique, mais qui s'appelle ACTA, Act Accelerator, qui permet en gros de rassembler tous les financements pour à la fois financer les traitements, les tests et le futur vaccin, la recherche et puis la production à venir. Mais au-delà de ces moyens qu'il faut trouver, et je peux vous dire qu'on est loin de les avoir trouvés, hein, puisqu'on estime qu'il faut à peu près 38 milliards de dollars pour pouvoir servir 2 milliards de personnes sur Terre d'ici fin 2021 avec le vaccin à venir. Seulement 2 milliards de personnes, hein, donc ce n'est pas la totalité de la population. Il faut 38 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a trouvé 3 milliards de dollars. Donc on est loin du compte en matière de financement. Et on est aussi loin du compte, en effet, en matière de droits de propriété, licences, brevets que vous évoquiez tout à l'heure et pour lesquels, si il faut imposer, en effet, un certain nombre de contraintes aux laboratoires pharmaceutiques. Et nous en avons les moyens juridiques.
Alors, je vous propose d'écouter quelqu'un qui est à la tête de l'ONU, c'est-à-dire le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. C'était le 12 septembre dernier. Il s'est entretenu avec les journalistes de l'émission internationale de TV5 Monde et du Monde, on l'écoute.
Il faut absolument voir le vaccin contre la pandémie comme un bien public global, comme un vaccin des peuples. Il faut absolument, et nous avons une initiative qui est à laquelle moi-même je suis associé, mais qui est dirigée par l'Organisation mondiale de la santé, le COVAX, qui vise une mobilisation de la communauté internationale pour qu'il y ait un vaccin accessible à tout le monde, et du point de vue physique et du point de vue, monétaire. En même temps, nous avons des initiatives isolées de pays qui essaient d'avoir des contrats avec des fabricants pour garantir que leur population puisse avoir des vaccins, même si les autres n'auront pas cette possibilité. Cette question est une question essentielle. À mon avis, il faut absolument gagner la bataille d'un vaccin qui soit un bien public global. Et nous ferons de notre mieux, mais c'est une victoire qui est loin d'être garantie.
Est-ce que vous y croyez vraiment, Marie-Paul Kieny, vous qui avez dirigé, directrice générale de l'OMS, à cette idée telle qu'elle est évoquée ici par Antonio Guterres, telle qu'elle est précisée par Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU?
Alors, il faut dire qu'effectivement, il y a des choses, comme il l'a mentionné, qui se mettent en place. Alors, suite aux réunions et à tous les efforts qui ont été mis par beaucoup de pays, dont le président français avait d'ailleurs appelé cette organisation de ses vœux, et à la suite d'une réunion pour lever des fonds qui a été organisée par la présidente de la Commission européenne, il y a pas mal d'argent qui a été collecté. Alors, à quoi est-ce que ça va servir d'un point de vue des vaccins? Ben, ça va servir à permettre de continuer à développer des vaccins qui pourraient être intéressants, qui pourraient devenir en deuxième position. C'est sûr que les vaccins qui sont les plus avancés, on ne sait pas actuellement s'ils sont la panacée, s'ils vont être combien, ils vont induire de protection.
On en donne combien de très avancés par rapport à la vingtaine qui sont en test ces temps-ci?
Alors, il y en a 200 qui sont en
200,
cours
de
développement. Il y en a 9 qui ont commencé ce qu'on appelle des études de phase 3 ou d'efficacité. Et il y en a une vingtaine qui sont en études cliniques. Donc on a déjà pas mal de candidats vaccins dont on connaîtra pour les premiers les résultats au courant de l'automne.
Partons d'un principe très simple, Marie-Paul Kieny. Admettons qu'à peu près en même temps, 15 jours, 1 mois, 2 mois d'écart, 3, 4, 5 laboratoires arrivent à des phases qui permettent de tester. Comment choisira-t-on tel ou tel vaccin et comment les pays choisiront tel ou tel vaccin? Et encore plus, comment l'ONU ou l'OMS, dans sa volonté de servir tout le monde, choisira-t-elle les vaccins qui pourront se répandre sur l'ensemble de la planète en même temps?
Alors, il faut déjà savoir que dans la mesure où aucun de ces vaccins n'a montré son efficacité à ce jour, ce que fait l'ONU, ce que fait la Commission européenne, la France, etc., la plupart des pays, c'est se dire il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, si je peux dire, et donc il faut essayer d'investir et d'essayer de promouvoir la production à grande échelle de plusieurs vaccins qui seraient basés sur plusieurs qu'on appelle, disons, des plateformes, des concepts différents de vaccins. Et c'est ce que fait, par exemple, COVAX, dont a parlé le secrétaire général de l'ONU. Ce que fait COVAX, qui est une organisation qui est en fait soutenue par 3 autres. Donc, il y a l'OMS, il y a le CEPI, qui est une organisation qui a été mise en place pour développer des vaccins contre les maladies émergentes, et Gavi, qui est l'Alliance mondiale sur les vaccins. Ce qu'ils font, c'est d'utiliser l'argent qu'ils ont eu à travers ACTA pour commander et réserver donc des vaccins qui seront distribués quand ils auront démontré leur efficacité. Alors, comment seront-ils distribués? Il y a d'abord une liste de pays, un peu moins d'une centaine, qui aura droit à ces vaccins, disons, gratuitement. Ça vient de l'aide au développement. Il y en a d'autres qui vont être capables de payer toute ou partie de ces vaccins et qui donc pourront aussi se servir dans cette centrale d'approvisionnement, si je peux dire, mais en payant.
Oui. Najat Vallaud-Belkacem, justement, cette différence entre les pays vous inquiète, vous, en tant que directrice générale de l'association One pour la France? Est-ce que, comme Oxfam, qui a publié la semaine dernière donc un texte disant qu'un groupe de pays riches représentant 13% de la population mondiale avait préacheté la moitié des futures doses de vaccins contre la Covid, cela, ça vous inquiète, ou est-ce que c'est simplement une crainte?
Non, ce qui est un motif d'inquiétude, c'est d'une part le manque de leadership politique, en quelque sorte, sur ce sujet, même si, comme Mme Kieny le disait à l'instant, il y a eu quand même des choses importantes qui ont été mises en place. Mais on sent bien que là, on est en train de stagner. Je le disais, on est censé trouver 38 milliards de dollars et on en est extrêmement loin. Et le COVAX, par exemple, qui était évoqué à l'instant, il faut savoir que Washington boycotte, par exemple. Donc, on n'aura pas de financement de ce côté-là. On a en effet une forme de nationalisme vaccinal qui conduit un certain nombre de pays, et ça a été établi ces derniers jours, à pré-réserver des doses très importantes de vaccins. Les États-Unis en ont déjà pré-réservé 800 millions. On voit d'ailleurs dans ce pays que c'est un enjeu de la campagne électorale, puisque Donald Trump a annoncé qu'il vaccinerait tout le monde d'ici le mois d'avril. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une espèce de course un peu nationaliste qui est problématique. Et si vous voulez, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est une fois que on aura malgré tout atteint à peu près nos objectifs, on l'espère, de ces 38 milliards de dollars. Dans la mesure où ça ne concernera donc que 2 milliards d'individus sur Terre, la question c'est comment on répartit. Et donc là, il y a plusieurs options. L'OMS, par exemple, dit il faudrait donner les moyens à chaque pays du monde de vacciner 20% de sa population et que donc chaque pays regarde qui sont les plus vulnérables pour les vacciner. Là encore, vous avez des pays, alors pardon de revenir sur les États-Unis, mais qui sont contre ça, qui disent non, moi je veux vacciner toute ma population d'un seul coup. Vous avez d'autres pays qui disent bah, peut-être que d'autres acteurs pardon, qui disent qu'il faudrait servir d'abord les pays dans lesquels il y a le plus de mortalité liée au Covid-19. Donc c'est ce genre de règles qui ne sont pas encore établies.
Donc il n'y a pas ce leadership que vous appelez de vos voeux, Gérard Dupont-Vourville.
Oui, tout à fait. Il y a une vraie problématique indépendamment de ça, si vous voulez. Il y a cette problématique qu'évoquent Madame Vallaud-Belkacem et Madame Kenny. Il y a une deuxième problématique qui est aussi une problématique de capacité de production. C'est-à-dire si, quel que soit, enfin, même avec la cible de 2 milliards qui était mentionnée par Madame Vallaud-Belkacem, ça engage quand même des moyens de production dont on se dit que les gros sont capables de le faire, c'est-à-dire les gros du vaccin, MSD, Sanofi, GSK, etc., sont capables de le faire, mais au-delà, à condition que ça soit eux qui aient développé le bon vaccin. Donc même là, on a un problème. On ne sait pas encore, si vous voulez, même dans les préachats que fait Trump, etc., on fait des préachats auprès de tout le monde. On fait des préachats auprès de tous les
acteurs potentiels.
Par exemple. Voilà, que COVAX a contacté, ils ont commencé par trois, puis trois autres, etc. Mais c'est un peu, on joue à la roulette, là, et on saura pas, voilà. Donc, de toute façon, on non seulement, qu'est-ce que disait Madame Vallaud-Belkacem en termes de c'est quoi les critères de répartition de ce qui est de la production mondiale, mais en plus de ça, il y a une question de capacité de production. Et cette question de capacité de production peut pas être totalement résolue parce que par le mécanisme dit de licence obligatoire, c'est-à-dire la licence obligatoire, c'est un pays ou un ensemble de pays qui dirait au labo votre brevet devient du domaine public, hein, ce qui fait que d'autres entreprises effectivement peuvent s'en emparer et donc multiplier la capacité de production à partir du moment où le vaccin est approuvé.
Je crois que c'est ce qui avait été fait pour le vaccin de la polio dans les années 50 par Jonas Salk, voilà. Par exemple, qui avait refusé le brevet pour pouvoir le laisser se
répandre. Sauf que dans cet exemple-là, voilà. C'était le découvreur qui choisissait de ne pas breveter sa découverte. Alors que ce qu'évoque monsieur, c'est en fait, c'est un mécanisme qui existe aujourd'hui qui permet aux pays, en réalité, d'imposer que le brevet soit partagé.
Gérard Dupont-Vourville, puis ensuite Marie-Paul Kieny sur ce point.
Non, tout à fait, c'est exactement ça. Donc la question après, c'est vous pouvez par exemple mettre en œuvre ce mécanisme de licence obligatoire. Après, encore faut-il trouver les industriels qui vont être capables de produire le vaccin, c'est-à-dire qui vont avoir les compétences technologiques pour produire le vaccin.
Oui,
et là, on se trouve dans une situation un peu bizarre. Je finis juste là-dessus. Oui, on se trouve dans une situation un peu bizarre. C'est, on imagine par exemple que Sanofi abandonne sa licence et que du coup GSK, qui a les capacités de production, s'empare du produit de Sanofi pour le fabriquer. Ouais. Ça peut être assez cocasse.
J'ai fini. Surtout Marie-Paul Kieny, que ne serait-ce que pour un pays comme la France, vous dites, même si on arrivait au mois de décembre à avoir un vaccin disponible ou potentiel, eh bien il faudrait, ne serait-ce que pour vacciner la totalité de la population française, imaginez que ça serait à la fin du semestre 2021. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent pas exactement cette échelle de temps. C'est-à-dire, on imagine, le vaccin arrive, on va se faire vacciner, ça y est, trois mois plus tard, tout le monde est vacciné, c'est terminé. Il faut deux vaccins, enfin, il faut un rappel, il faut trois semaines ou un mois entre chacun de ces vaccins. Et tout ça, ça va conduire à avoir au moins un an de vaccination, c'est cela ?
Alors, si vous me permettez, je vais répondre sur les deux questions. D'une part, sur les licences obligatoires. Alors, il y a une initiative qui a été lancée par le président du Costa Rica, il y a déjà plusieurs mois, pour dire qu'en fait, tous ces brevets devraient être mis dans un pool, et donc, en particulier, dans le Medicines Patent Pool, qui est une fondation en Suisse, dont je suis la présidente du conseil d'administration. En fait, ce qu'on s'est rendu compte avec le Medicines Patent Pool, on a contacté des industriels, pas seulement du vaccin, mais d'ailleurs du médicament aussi, et on se rend compte qu'actuellement, les producteurs ne sont sont pas intéressés du tout à laisser aller en fait leurs droits de propriété intellectuelle. Mais par contre, ce qu'ils font, et la plupart le font, c'est qu'ils trouvent des accords bilatéraux avec d'autres producteurs qui vont augmenter la capacité de production. Mmh. Alors le meilleur exemple pour ça, c'est une compagnie qui s'appelle Serum Institute of India, qui est une compagnie familiale, qui est le plus gros producteur de vaccins au monde. D'un point de vue volume. Hein. Donc, il y a déjà des accords entre AstraZeneca et Serum Institute of India qui s'est engagé à produire 1 milliard de doses par an. Alors, on espère que ce vaccin va être efficace. Et donc, c'est un vaccin qui sera disponible pour l'Inde, mais aussi pour d'autres pays pauvres. Le même Serum Institute of India a promis que, quel que soit le vaccin qui va être efficace, ils vont s'engager à produire des doses à peu près de ce niveau-là, donc c'est-à-dire 1 milliard de doses par an. Alors, d'autres compagnies, comme Moderna, par exemple, dont on parle beaucoup, a des accords avec une compagnie qui, en fait, n'est pas une compagnie de vaccins, qui s'appelle Lonza, en Suisse, et qui va aussi développer, qui va aussi produire des grandes quantités de vaccins, et Moderna pense pouvoir produire plus d'un milliard de doses par an aussi. Alors, reprenons sur les temps de vaccination. Alors, il faut savoir aussi que les opérations de vaccination vont prendre du temps, non seulement à cause de la disponibilité des vaccins, mais aussi à cause de la capacité que vont avoir les pays à mettre en œuvre ces programmes de vaccination et la volonté des populations de se faire vacciner, parce que, en fait, la vaccination est volontaire. Alors, serait-il prudent de vacciner, en fait, des milliards de gens pendant le premier trimestre de 2021? Bien, peut-être pas. Parce que quand on regarde les données qu'on a sur la sécurité pour le moment, on a des données sur les phases 1-2, donc on connaît les effets secondaires néfastes fréquents. Ce qui se passe, disons, une fois sur 100, eh ben, on les connaît, on a la fièvre, on a mal à la tête, on a mal au bras, cela on les connaît. Alors après ça, les essais pour l'efficacité vont mettre en place des vaccinations chez quelques, disons, allez, 20 000 personnes. Là, on va connaître les effets négatifs un peu moins fréquents. Mais passer de 20 000 personnes où on sait quel est le profil de sécurité du vaccin à vacciner 1 milliard de personnes, il y a un pas qui, à mon avis, est trop grand. Donc, il faudrait sûrement, pendant le premier trimestre, essayer de vacciner, disons, quelques millions de personnes pour voir si, effectivement, la sécurité qu'on croit avoir maintenant tient toujours quand on vaccine beaucoup de monde avant d'étaler ça à 1 milliard de personnes.
Vous imaginez bien effectivement la difficulté pour les dirigeants et aussi pour les populations à accepter un tel délai, un tel choix effectivement qui est un choix prudent, on l'a bien compris avec vous Marie-Paul Kieny, mais qui peut être risqué au point de vue politique. Je vous propose une petite pause, vous écoutez Le Temps du Débat, le vaccin contre le Covid pourra-t-il rester un bien public? C'est la discussion que nous avons avec Marie-Paul Kieny, Gérard de Pouvourville et Najat Vallaud-Belkacem.
Du nickel et du vanadium, molybdène et aluminium, du plomb, de l'étain et du bore, titane, arsenic, magnésium, fluor, cobalt et silicium, et même du soufre et du chlore.
France Culture.
Et le continue par le foie, les poumons, les reins, l'estomac, le pancréas, les parotides, membres inférieurs et supérieurs, la rate, le cerveau, le cœur. Et puis la glande thyroïde.
Le temps du débat.
J'ai la sensation chaque nuit de suivre un cours d'anatomie. Avouez, avouez qu'elle n'est pas normale. D'autres ont des amours poésie, des amours bruts ou travestis. Je vis des amours médicales.
Emmanuel Laurentin.
Vous écoutez France Culture, Le Temps du Débat, Les Amours Médicales de Charles Aznavour en illustration de notre émission consacrée aujourd'hui au vaccin contre la Covid. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez, avant d'être à la tête de cette organisation One, donc pour la France, vous étiez chez Ipsos, vous êtes intéressé à la question des biais cognitifs. Voilà quelque chose de très intéressant quand on parle du vaccin. On sait que la France est un des pays où il y a une des plus fortes proportions à réfuter l'idée même des vaccins. Alors, tout ce qu'on est en train de dire, des millions, des milliards de doses qu'on pourrait répartir sur l'ensemble des pays de la planète, etc., etc., encore faut-il que les gens veuillent bien se faire vacciner.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, une étude récente montrait que 1 Français sur 4 était assez rétif à l'idée de se faire vacciner pour la Covid-19. Donc, c'est vrai que c'est une donnée très importante à prendre en compte pour les pouvoirs publics. Et vous l'avez dit, c'est un sujet auquel je me suis beaucoup intéressée parce que, en fait, je m'intéresse aux erreurs de perception, aux biais cognitifs qui influencent, qui impactent nos décisions. Et c'est vrai qu'en matière de vaccins, l'une des choses qui explique que tant de gens, finalement, préfèrent ne pas se faire vacciner que le faire, c'est l'asymétrie de perception entre le coût de l'action et le coût de l'inaction. Je m'explique. Vous voyez, quand vous décidez de faire quelque chose, si ça se passe mal à la fin, vous vous en voulez énormément parce que vous vous souvenez avoir pris la décision de faire. Donc, les gens qui vaccinent, par exemple, et puis qu'à la fin, il y a un problème, ce qui peut arriver, ce qui est très minoritaire, mais ce qui arrive, on en entend beaucoup parler, ils s'en veulent beaucoup. En revanche, l'inaction, lorsque vous choisissez de ne pas faire, en l'occurrence ne pas vacciner, mais qu'à la fin, il y a un problème, votre enfant a un problème, vous faites assez mal le lien entre la décision d'inaction et la survenance de ce problème. Et donc, c'est cette asymétrie de perception qui fait que c'est installé de plus en plus dans le paysage, pas seulement dans notre société, hein, dans beaucoup de pays, mais beaucoup chez nous, cette interrogation permanente du vaccin et de ses effets bénéfiques. C'est aussi, je pense, lié au fait que, contrairement à certains pays dont on s'occupe beaucoup dans mon ONG, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu de grandes pandémies, d'une certaine façon.
On a redécouvert en tout cas l'hygiène publique, par exemple. Voilà. C'est quelque chose qu'on connaissait assez peu. On avait oublié qu'effectivement, ne pas se laver les mains, ne pas serrer la main de quelqu'un après s'être mouché, c'était peut-être pas la meilleure manière d'éviter la propagation d'un virus. On l'a redécouvert.
Absolument,
alors que dans beaucoup de pays où ces questions-là sont très forts, on le sait.
Et puis la troisième chose à prendre en compte pour expliquer ce fort sentiment antivaccinal, c'est aussi une forme de puissance de tous les mouvements anti-vax qui sont très présents, notamment sur les réseaux sociaux, qui jouent beaucoup sur l'émotion et qui ne trouvent que rarement face à eux, finalement, des arguments de poids qui puissent venir en faveur de la vaccination. C'est pour cela que je le dis, c'est un vrai sujet pour les pouvoirs publics, parce qu'en même temps qu'ils doivent aider à trouver ce vaccin, il faut aussi préparer la population si on veut qu'il y ait un taux de couverture suffisant pour qu'on aille vers l'immunité.
Et cela, effectivement, ce sont des questions que vous vous êtes posées et que vous vous posez encore, Marie-Paul Kieny, j'imagine. La question des résistances, etc.
Absolument. Et en fait, en revenant de ma mission à l'OMS pendant de nombreuses années, les premières choses que j'ai faites, c'est travailler avec l'Inserm sur un papier qu'a publié l'Inserm sur la vérité sur les vaccins et sur l'obligation vaccinale qui était en train de passer en France. Donc c'est clair que en France, on a tout particulièrement, c'est pas le seul pays, mais une résistance vaccinale qui va d'ailleurs dans la plupart des pays de pair avec la réticence à la confiance vis-à-vis du système et du gouvernement. Et donc, le seul moyen avait été de rendre la vaccination obligatoire. Alors là, il n'est pas question, j'ai jamais entendu qu'on parlait de faire la vaccination contre la Covid obligatoire. Mais il va falloir convaincre et il va falloir être transparent sur tout ça.
Il va falloir surtout convaincre des populations à qui on a expliqué pendant des années qu'il fallait 10 ans pour mettre en place un vaccin, que là, on pourrait le faire en mettons 4 mois, 5 mois depuis le début des essais pour les premiers vaccins qui sont en cours et immédiatement, en un an et demi, avoir réussi à vacciner une partie de l'humanité. C'est assez, disons, contre-intuitif, pourrait-on dire.
Oui, c'est contre-intuitif, mais il faut aussi expliquer comment, en fait, tous les tests se font. Mais à la place de se faire les uns derrière les autres, avec des délais pour commencer d'un à l'autre, en fait, ils sont tous commencés en même temps. Donc, en fin de compte, on aura les résultats des premières phases chez l'homme. Donc, les phases 1, on les aura dans un an. Les résultats totaux des essais d'efficacité dans les détails, on les aura aussi un an après. Il faut savoir que c'est toujours une question d'analyse du risque et du bénéfice.
Sur ce point, justement, Gérard, vous voulez terminer. Excusez-moi, Marie-Paul Kieny, je vous ai coupé.
Pardon, je voulais dire que c'est toujours une question du calcul du risque et du bénéfice. Si, effectivement, on était dans une situation où on voyait en France, par exemple, que les hôpitaux ne se remplissent pas en hiver, qu'on n'a pas les personnes âgées dans les EHPAD qui meurent, on pourrait se dire, peut-être, ne nous pressons pas. Mais si, au contraire, on voit de nouveau que les services d'urgence sont saturés et qu'on a des hécatombes dans les EHPAD, ça pourrait me permettre à aux gens de se dire peut-être je pourrais moi faire quelque chose pour empêcher ça, et c'est aussi ma responsabilité à ce moment-là de me faire vacciner moi pour empêcher les autres d'être malades.
Gérard Dupont-Vourville.
Oui, tout à fait, mais je pense qu'il y a, il va y avoir un gros travail pédagogique à faire, effectivement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de il y a eu des débats et des controverses un peu confuses en France, en tout cas, sur quel est le degré d'immunité collective auquel il faut arriver pour que la population soit protégée. Donc, ça va laisser des traces quand même. Ça va laisser des traces. Et alors, moi, j'ai envie de demander poser une question à Mme Kenny, c'est-à-dire que admettons que les phases 3, que plusieurs vaccins finalement aient des phases 3 positives. Hein, Est-ce qu'on ne peut pas être confronté à la situation où, en fait, ces vaccins sont effectivement efficaces, mais avec des efficacités variables, en fait, d'une molécule à l'autre, ce qui du coup pourrait poser des sacrés problèmes, en fait, en termes d'acceptabilité. C'est-à-dire, si le premier vaccin, admettons, le premier vaccin qui arrive, bon, ok, tout le monde se dit, ok, on le veut et tout. Et puis, 6 mois après ou 3 mois après, finalement, il y a un deuxième vaccin qui arrive avec des résultats de l'essai clinique qui sont bons et qui sont peut-être meilleurs que le premier. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est un truc que j'arrive pas bien à anticiper et à voir. Peut-être que Madame Kenny a des idées là-dessus.
Brièvement,
c'est pas improbable.
Marie-Paul Kenny et puis ensuite Najat Vallaud-Belkacem.
Oui, évidemment, il va y avoir différents vaccins avec différents types de profils. Alors, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des vaccins qui marchent chez les personnes plus âgées. Mais peut-être tous ne marcheront pas. On aimerait avoir des vaccins qui protègent aussi de la transmission, qui cassent les chaînes de transmission. Certains vont le faire, certains peut-être pas. Donc, il va falloir effectivement regarder comment on peut les utiliser au mieux et chez quelle population ces vaccins sont les plus indiqués.
Et sur la question qui nous intéresse depuis le début de cette émission, Najat Vallaud-Belkacem, qu'est-ce que votre organisation One donc prône pour, faire en sorte non pas d'avoir un vaccin gratuit et universel, peut-être ce qui était le souhait de certains, mais on a bien compris depuis le début de cette émission qu'il serait difficile de convaincre des laboratoires pharmaceutiques de le faire gratuitement et surtout d'abandonner leurs droits intellectuels sur la création de ces vaccins. Mais disons l'universalité en particulier de ces questions-là, c'est des questions qui vous intéressent, j'imagine, Awan.
Oui, bien sûr. Donc j'ai parlé de la nécessité de recueillir du financement. Je rajouterai.
Auprès de qui d'ailleurs ces milliards que vous demandez,
parce qu'il faut
38 milliards. Il y en a 3 milliards pour l'instant.
C'est cela, donc auprès des pays riches, auprès de l'Union européenne.
Et quand vous dites que les États-Unis disent niette, voilà, il n'en est pas question.
Donc, il faut bien chercher des sources de financement ailleurs. Et donc, j'en viens à ma deuxième suggestion, enfin, notre recommandation très forte, qui est que le secteur privé aussi participe au financement. Et d'ailleurs, il y a des possibilités qui existent aujourd'hui de financer le COVAX pour le secteur privé.
Ce qui veut dire que, disons, des entreprises, par exemple, pourraient imaginer que, pour éviter d'être bloqué dans un énième rebond de l'épidémie, eh bien, elle participerait au bien commun pour pouvoir ensuite avoir la possibilité de faire en sorte de continuer à tourner, c'est cela ?
Absolument, et en particulier dans un contexte où, comme vous le savez, la Covid, et le confinement qui s'en est en suivi a pour certaines entreprises été une source de bénéfices très important. Enfin, je rappellerai ici tout de même que vous avez les 25 milliardaires les plus riches du monde qui se sont encore enrichis pendant la crise avec un gain de plus de 255 milliards de dollars. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'entreprises. Alors, est-ce utile de les citer ici? Mais on les imagine bien, les entreprises qui ont gagné pendant le confinement, par exemple, qui ont profité, oui, qui ont tiré profit de cette période et qui ont ensuite redistribué ce profit à des actionnaires qui étaient déjà eux-mêmes très, très, très riches. Et donc, l'évidence, c'est de penser à une forme de taxe Covid qui, d'une façon ou d'une autre, puisse affecter les entreprises et les personnes qui ont énormément gagné d'argent pendant cette période.
Et qui permettrait ce rééquilibrage que vous souhaitez entre pays riches et pays moins riches pour pouvoir bénéficier de ce vaccin à venir.
Absolument. Sachant que, pardon, je voudrais juste préciser un propos de tout à l'heure. Je vous disais, ce sont les pays riches qui financent, mais même les pays pas riches, en réalité, sont amenés à financer, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, puisqu'on évoquait ce qu'on appelait la COVAX facilité, à laquelle participent y compris des pays d'Afrique. d'Afrique qui n'ont pas énormément de moyens. Les seuls qu'on exonérera d'une certaine façon de faire de telles contributions, c'est les pays qui sont totalement dans la difficulté, qui n'ont absolument pas de moyens à y mettre et que l'OMS s'est engagée à aider. Mais c'est un effort mondial. Et je voudrais juste en finir avec le secteur privé, et cette fois-ci en m'arrêtant sur les laboratoires pharmaceutiques. Il ne faudrait pas que cette opération soit l'occasion pour les laboratoires pharmaceutiques de faire du profit. Donc nous demandons que tous les financements publics qui sont alloués à la recherche et au financement de ce futur vaccin, eh bien, soient assortis de critères stricts sur la transparence et le fait que ces vaccins à venir soient vendus au prix coûtant, qu'ils ne fassent pas l'objet d'une recherche de profit de la part de ces entreprises-là.
Vous y croyez, Marie-Paul Kieny, à des propositions aussi simples que celles qui viennent d'être prononcées par Najat Vallaud-Belkacem au nom de l'organisation non gouvernementale OAN ?
Alors, j'aimerais y croire, il n'y a pas de doute, mais moi, de toute façon, les sociétés qui vont avoir un vaccin qui va marcher vont casser la banque. Hein, je veux dire, ça, c'est le hold-up du siècle.
Mais, vous voulez dire mais que, ne serait-ce qu'en bourse, ça ira très bien pour eux, c'est ce que vous voulez dire.
Par exemple, oui. Mais même, c'est quand même, même si vous regardez ceux qui ont annoncé un prix public relativement bas, si on peut dire $2.5 par dose, c'est celui d'AstraZeneca. Il faut 2 doses pour immuniser quelqu'un, ça fait $5, il y en aura peut-être un peu plus. Si vous mettez à ça à l'échelle de quelques milliards de personnes vaccinées, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, mais ce que j'ai été étonnée de voir que ce qui n'était pas promu du tout dans toutes ces discussions de bien public mondial, c'était une donation de la part des vaccins, des fabricants de vaccins. Parce que je me souviens très bien quand il y avait eu la pandémie de grippe H1N1 en 2009-2010, en fait, l'OMS, où j'étais à ce moment-là, avait négocié avec les producteurs de vaccins la donation de 10% de leur production en temps réel, qui était donc une contribution, leur contribution à la vaccination contre la pandémie. Et j'ai trouvé dommage, en fait, qu'on ne redemande pas aux industries qui m'ont, en fait, gagné beaucoup d'argent du fait de la pandémie, de la vente des vaccins, de donner au moins 10% de leur production.
Eh bien voilà, on a plusieurs solutions, peut-être, pour pouvoir répondre à la question que nous avons posée avec vous, Najat Vallaud-Belkacem, avec vous également, Marie-Paul Kieny, avec vous, Gérard de Pouvourville. Donc, la question, c'était le vaccin contre le Covid. Pourra-t-il rester un bien public ? C'est une question posée aussi par le magazine Society, qui vient de sortir la semaine dernière. Et vous y répondez d'ailleurs à cette question, en partie, Marie-Paul Kieny. La course au vaccin, c'est leur titre de une cobaye politique et coup fourré, mais qui arrivera le premier. Merci à toutes les trois, à toutes les deux et à vous-même, Gérard de Pouvourville, d'avoir participé à cette discussion. C'était le temps du débat. Antoine Tricot, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Iman Gilles à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger à la réalisation, Alexandre Manzanares. Dans le temps du débat demain, nous allons revenir sur une question nationale, de politique nationale, même que désigne le séparatisme. Nous aurons avec nous un sociologue, Fabrice Dume, une politiste, Sarah Mazoud, et également le professeur émérite de philosophie à l'Université Paris 1, Rémi Braque. Tous les trois débattront justement de cette notion de séparatisme. Qu'est-ce qu'elle signifie dans la société française aujourd'hui, telle que le souhaite visiblement en particulier le président de la République et le Premier ministre. Nous en débattrons demain entre 18h20 et 19h. Dans 3 minutes, vous allez retrouver Arnaud Laporte pour l'émission Affaires culturelles. Ça sera à 19h03 avec pour invité principal Laure Calamy pour en particulier son actualité au cinéma et son film Antoinette dans les Cévennes. Mais auparavant, sachez que vous écoutez bien entendu France Culture, qu'il est très bientôt 19h et qu'à 19h sur France Culture, ce sont les titres de l'actualité. Titres de l'actualité présentés ce soir par vous, Marie-Hélène Duvigneau. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous.